un engouement jamais démenti, des photographes de talent, des invités prestigieux, des conférences et projections. Une nouvelle fois à Pierre Vert dans les Alpes de Haute-Provence, l'édition 2023 des Nuits Photographiques a rencontré un large public pour son 15e anniversaire. Une manifestation qui s'est tenue du 27 au 30 juillet est placée sous le marrainage exceptionnel de la photographe Sarah Moon et en présence du toujours fidèle photographe Peter Knapp, événement dont la réussite est étroitement liée à l'investissement et la passion de très nombreux bénévoles. Pour présenter cette nouvelle édition des Nuits, nous allons entendre Stéphane Kosman, président des Nuits Photographiques, qui évoquait également l'exposition dont il fait l'objet à Manosque à la Fondation Carzou, puis François-Xavier Emery, directeur artistique, Marie Cor du comité artistique et commissaire des expositions, Marc-François Villain à la direction technique, hébergement et montage des expositions, et Claude Bouliou, secrétaire général de l'association chargée de communication. Nous entendrons ensuite le maire de Pierre-Vert, André Mille, ainsi que Sandra Faure, vice-présidente et déléguée à la culture pour la DLVA, et enfin les photographes Natalia Saprunova, Peter Knapp et Sarah Moon. Stéphane Kosman, comme chaque année, un très bel événement à Pierre Vert.
Et surtout cette année, c'est la 15e édition, donc on est assez content. On a une très grosse équipe de bénévoles, ça se met en place doucement.
Et le programme, un programme aussi alléchant ?
Oui, au niveau marraine, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de marraines cette année, c'est Sarah Moon. Sarah Moon, on est dans du très très haut niveau photo, puisque même si nos amis Yann Arthus Bertrand, Jean-Marie Perrier sont très 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 connus en France, Sarah Moon, c'est vraiment du niveau international, comme Olivier Rotoscani qu'on a eu pour la 2e édition. Donc Sarah sera là juste 24 heures, on est très content de la voir. Voilà, donc.
Et comment se fait-il que vous avez réussi à faire venir des pointures, on va dire le mot comme ça, depuis le début ?
C'est pas grâce à moi, c'est surtout grâce à notre premier parrain, à Peter Knapp. Peter Knapp qui nous a fait confiance dès le départ, c'est lui qui a dessiné le logo des Nuits Photographiques de Pierre Vert. Et puis évidemment je suis toujours en contact avec lui dans l'année. Et cette année, il m'a dit, bon, on avait déjà essayé plusieurs fois d'avoir Sarah Moon. Et cette année, elle a accepté de venir. Mais bon, 24 heures, c'est déjà très bien, puisqu'on a déjà eu ce format avec Gérard Rancinan et Yann Arthus Bertrand. Donc voilà, on l'attend jeudi en début d'après-midi. Elle repartira vendredi.
Alors vous-même, avant de passer la parole à François-Xavier Emery, vous avez une exposition qui vous concerne de beaucoup plus près à Carzou.
Alors oui. Là, c'est là où François-Xavier, je voulais qu'on expose tous les deux, et puis il m'a dit non, vas-y tout seul, donc ok. J'ai dit ok, d'accord, justement, je veux bien le faire si Peter Knapp m'aide dans le choix des images, et voilà, donc je suis allé chez lui en Suisse, on a travaillé pendant 3 jours.
Sur vos photos personnelles ?
Sur mes photos, parce que le choix était un peu difficile. Sur New York, c'est très difficile de raconter une histoire. Donc on a choisi certains thèmes et puis surtout dans la scénographie de l'expo, Peter est intervenu sur des diptyques, sur des formats aussi. Et voilà ce qui donne 85 photos de New York.
Avec une très belle affiche.
Oui, merci. Merci. Non, c'était... Peter m'a dit tout de suite, ce ne sera pas tes photos de star, parce qu'on me connaît beaucoup pour mes photos de Cannes. Et il m'a dit, c'est Stéphane en Amérique. Et après, de Stéphane en Amérique, c'est passé sur Frenchman in New York. J'avais cette chanson de Sting en tête, An Englishman in New York. Et je dis, bon, voilà, on va faire une espèce de parallèle.
Et pourquoi avez-vous demandé à Peter Knapp justement de choisir ?
Parce que Peter, moi j'ai malheureusement perdu mon père il y a 25 ans. Je ne dis pas que Peter a remplacé mon père, mais mon père m'a donné un appareil photo dans les mains quand j'étais petit. Mais quand j'ai rencontré Peter, il m'a appris à voir les choses. C'est-à-dire que mon père m'a enseigné la photographie, mais Peter m'a appris à voir les choses. Donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et j'ai fait 3 livres avec lui. Voilà, il m'a rassuré sur pas mal de choses. J'ai pas fait les beaux-arts, j'ai pas fait tout ça. Et Peter me disait, bah oui, t'as la chance de pas avoir fait les beaux-arts, justement. Tu vas te tromper, et dans tes erreurs, tu vas avancer plus vite que les autres. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Voilà.
Et votre exposition est visible jusqu'à quand ?
Jusqu'à fin septembre. Chaque année, la personne qui expose à Carzou... crée le lien avec les correspondances. Donc, c'est un petit passage entre les deux événements. Voilà.
François-Xavier, vous êtes également photographe. Alors, vous n'avez pas voulu exposer avec Stéphane ?
Oui, non, mais moi je pense que c'était plutôt cohérent, parce que ce que Stéphane a montré, c'était une vision particulière qu'a Stéphane de sa vie à New York, et donc ça je trouvais que c'était important, et que c'était pas forcément trouver un alliage entre lui et moi. Alors c'est pas infaisable, hein, mais c'est que l'espace n'était pas suffisamment grand, voilà, il y avait un certain nombre de critères qui faisaient que moi j'ai dit à Stéphane, non, c'est une exposition Stéphane Kosman, vas-y comme ça, parce que puis moi je venais d'exposer en plus, je sortais d'une exposition à Manosque sur la
différence. D'autres membres fondateurs des nuits photographiques.
François-Xavier Emery, peut-être détailler le programme de ces nuits photographiques.
Oui, alors le cœur du festival, c'est quand même les soirées de projection. Donc on a trois soirées de projection, le jeudi, du jeudi 27 jusqu'au samedi 29. Là, on égrène donc toute une série de photographes qu'on a sélectionnés. Donc dans le cadre d'un appel à candidature, on a sélectionné sur 250 dossiers, on a retenu 33 photographes qui sont présentés pendant ces projections, donc répartis sur ces trois soirées. Il y a aussi des photographes qu'on invite, nous, de notre côté, en dehors de l'appel à candidature, qui donc intègrent aussi cette soirée. Voilà, donc les soirées sont en deux parties, c'est à 22h et ça dure à peu près une heure et demie. Et c'est, voilà, chaque soirée a un peu son originalité, notamment celle de jeudi, il y aura le début du festival avec Sarah Moon qui sera là, qui sera présente, et Peter Knapp l'accompagnera, donc avec une présentation d'un petit film qui avait été fait sur elle. Et puis après, voilà, il y aura donc ça pendant les trois soirées, des projections.
Comment est composé le jury qui a présidé à ces choix ?
Alors on est cinq membres de l'association qui ont plus ou moins chacun des parcours autour de la photographie, rédacteurs de photos, photographes, commissaires d'exposition. Il y a Fatima Fasmouz aussi qui est une plasticienne, qui est une grande photographe franco-marocaine. Voilà, et donc ces cinq personnes ont fait un travail de... On se réunit par WhatsApp plutôt, ou Zoom, parce qu'on est tous un petit peu répartis sur le territoire français, à Lyon, Paris.
Juste repréciser que, comme je le disais tout à l'heure, Sarah Moon est là 24h, donc il y a la présentation le jeudi soir sur scène, mais il y a aussi le vendredi matin sa conférence qui est à 10h, un moment important à ne pas louper.
Oui, c'est un personnage étonnant et voilà. C'est presque mythique, on va dire.
Tout à fait, oui. Et puis c'est surtout quelqu'un qui ne va pas dans des festivals, ou très très peu. Donc grâce encore une fois à Peter Knapp, puisqu'ils se connaissent depuis plus de 60 ans, c'est agréable pour eux d'être là ensemble. Donc ça sera intéressant, puisque le débat sera mené aussi par Peter.
Donc, qui sera présent, non ?
Qui sera présent aussi, voilà.
Après, moi, je pense qu'il faut rajouter ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même 12 expositions, qui sont 13 expositions qui sont présentées. Là, justement, toutes les personnes qui sont autour de vous sont en train de construire, d'œuvrer, de faire toute une installation, qui sont des installations un peu éphémères, mais qui sont vraiment de qualité, parce que c'est mené de maître par Marie Cor, qui est responsable de ça, qui est commissaire de ces expositions. Exposition qu'on a un peu sélectionnée, nous. On a aussi bien une photographe qui fait un travail sur une ethnie en Sibérie, que des photographes qui font un travail autour de la fast fashion. Donc il y aura un zoom sur la fast fashion, justement dans cette salle polyvalente. On travaille avec la ressourcerie, oui. C'est en partenariat avec la ressourcerie de Haute-Provence. Et il y aura pour l'occasion, par rapport aux vêtements, l'utilisation des vêtements, il y aura un défilé qui sera fait, organisé, mené par la ressourcerie.
Voilà. Tout cela est gratuit ?
Tout est gratuit. Tout est gratuit. Et après, à côté de ça, il y a des conférences. Il y a quelques conférences qui sont... Donc il y aura celle de Sarah Moon, mais après il y a d'autres conférences qui sont... Là, il faut voir dans le programme.
Vous pouvez trouver le programme sur votre site ?
Sur le site, oui. C'est Nuit Photographique. Nuit Photographique Pierre Vert. C'est pas les nuits photographiques, c'est Nuits photographiques Pierre Vert.
Marc-François Villain. Je suis pompeusement... c'est écrit là, ouais. Donc voilà. Je sais pas comment c'est écrit d'ailleurs. Direction technique, hébergement. Voilà, donc en fait je m'occupe de tout ce qui est partie logistique et l'installation et le montage sous les ordres de Marie.
Voilà. Et Marie ?
Moi je suis Marie Cor, donc je suis directrice artistique des expositions. Donc je m'occupe de la scénographie, du contact avec les artistes, du choix des photographies, de la mise en espace, de la scéno, voilà, tout ça.
Donc tous les deux, vous avez beaucoup de travail toute l'année, non ? Ça dure. Vous préparez-vous, ouais. Commencez à préparer l'année prochaine ?
Alors, pas encore. On va déjà se concentrer sur celle-là. Mais c'est vrai qu'en général, on commence au mois de février-mars. L'appel à projet avec lequel on sélectionne les photographes se clôture en février. Le temps après nous d'étudier les dossiers, ça nous prend un petit mois. Donc c'est pour ça, voilà, entre février et mars, on a déjà une idée des photographes qui seront invités. Et à ce moment-là, on commence aussi à sélectionner les photographes qui seront exposés. Donc de penser du coup, tout ça avec les photographes, évidemment. On travaille en binôme avec eux pour mettre tout ça en place. Alors du coup, il y a le comité de direction artistique. Donc on fait une direction artistique collégiale avec toute la coordination du coup de François-Xavier Emery. On est 6. On se met d'accord sur les projets qui nous sont proposés dans l'appel à projets. On sélectionne environ 35 dossiers et ensuite on peut voir comment on organise le festival.
Et comment communiquez-vous justement pour faire appel à des candidats ?
C'est un appel à projet qui est lancé en décembre. Donc c'est site internet, réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Les photographes qui sont invités les années précédentes suivent aussi évidemment un peu l'actualité du festival et repartagent aussi beaucoup de leur côté donc l'appel à projet.
C'est un festival qui prend beaucoup d'importance maintenant, sa 15e année.
Oui, 15 ans justement, cette année c'est l'anniversaire, donc on a essayé de mettre aussi un petit phare sur cette partie-là. Alors, ce n'est pas une année anniversaire, ce n'est pas 10 ans ou 20 ans. Donc c'est l'édition des 15 ans cette année et donc on a beaucoup de bénévoles, parce que c'est un festival qui fonctionne 100% bénévolement. Et c'était aussi un moment, l'idée de leur rendre un peu hommage aussi cette année. Donc on fait une exposition rétrospective des 15 ans avec vraiment axée sur la convivialité du festival et pour aussi rendre hommage à tous ces bénévoles qui, sans qui le festival serait absolument impossible.
Marc, vous êtes plutôt responsable de tout ce qui est technique, on va dire l'hébergement, l'accueil, etc. Le montage des expositions, je lis votre badge.
Exactement, hein. Exactement, c'est ça. Et en fait, vous plaisantiez tout à l'heure en disant qu'on commence à préparer l'année prochaine dès maintenant, mais c'est un peu le cas, puisque en fait, chaque heure qui passe là est un enseignement pour ce qu'on pourra faire différemment l'année prochaine. Quoi. Donc cette année, on a fait un gros effort d'anticipation pour toutes les parties qui sont imposantes à transporter. Donc, quels sont les moyens de transport qu'on va avoir, qui va être là pour aider, etc. Donc on a quand même bien avancé sur cette partie-là. Et puis voilà, donc là on est à peu près dans les clous en termes de préparation. On reste confiant. Il y aura forcément un petit moment de rush, mais en tout cas ça se passe plutôt bien. C'est une découverte. Moi, c'est la première année que j'occupe ce poste-là. Et l'équipe est assez nouvelle, ce qui a l'avantage d'avoir un œil neuf sur la façon dont on s'organise et en même temps de se dire, on espère qu'on n'a rien oublié, mais bon.
Et l'enthousiasme est tout frais.
Exactement, exactement.
Et vous êtes aussi concerné, évidemment, par l'hébergement de tous ces artistes, etc. Oui. Pas trop compliqué ?
Non, parce qu'on a la chance d'avoir une communauté à pied à verre, des gens qui sont extrêmement accueillants et qui participent à la fois au montage, qui hébergent des photographes chez eux, qui participent également à la surveillance des salles d'exposition et qui sont capables de donner quelques commentaires au fur et à mesure aux visiteurs. Donc entre ceux qui sont sur pied à verre, il faut jongler aussi parce que les photographes viennent parfois en voiture, parfois ne sont pas motorisés. Donc dans ce cas-là, les non motorisés, on essaie de les loger pas trop loin du centre pour qu'ils puissent venir à pied. Voilà, donc c'est une petite gymnastique qui, elle, pour le coup, se fait effectivement plutôt au mois de mai jusqu'à mi-juin pour justement arriver à caser tout le monde, on va dire. Mais ça se passe très bien, en fait, c'est l'état d'esprit est vraiment très positif. Donc.
Des rencontres à tous les niveaux, en fait, puisque les gens sont logés chez les habitants.
Donc. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et en tant que bénévole, on vit une double aventure, quoi. Une aventure communautaire, d'équipe, quoi, sur la partie très physique, montage, etc. Et puis une aventure artistique où finalement on peut profiter ensuite de la dimension artistique de ce qu'on a installé. Donc ça c'est vraiment top et on encourage tous les gens à venir. On a encore beaucoup besoin de bénévoles donc n'hésitez pas.
Claude Bouliou, une nouvelle fois un bel événement, d'autant plus que c'est le 15e anniversaire des Nuits.
C'est le 15e, donc c'est vrai que c'est la continuité d'une belle aventure qui va crescendo. Voilà, on est parti petit, ça devient un grand festival avec une belle équipe. Et une belle organisation, cette année particulièrement.
Et sûrement une grande confiance de la part des photographes qui viennent.
Oui, oui. Alors il y a toujours un tout petit peu de réticence au départ, parce que quand même Stéphane s'adresse à des stars, et Pierre Vert, ça leur parle pas forcément, et tous, après être venus à Pierre Vert, ne rêvent que d'y revenir. D'ailleurs, notre problème, c'est de gérer tous ceux qui veulent revenir.
Une nouvelle fois, un très beau programme.
Donc c'était Peter Knapp, qui est là depuis l'origine, depuis le départ, qui vient avec son amie Sarah Moon, donc grande photographe de mode. Donc c'est vrai qu'on aura fait le tour des plus grands photographes de cette génération-là.
tout se passe bien en général. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour l'organisation de cet événement ?
Alors, il y a toujours des difficultés, les rôles sont bien répartis. Stéphane s'occupe effectivement de faire venir parrain, marraine, enfin, les grandes pointures. Et nous, on a une organisation à l'année, on a un comité de pilotage avec un petit groupe rapproché qui travaille toute l'année. Une fois par mois, on se réunit. Il y a une grosse anticipation qui fait que ça roule bien quand on est en place.
Alors, financièrement, c'est pas trop compliqué à gérer ?
Si.
Vous êtes subventionné ou pas complètement ?
On est subventionné, mais c'est très compliqué. C'est justement la particularité de ce festival. Pourquoi il y a cet engagement bénévole ? En fait, il ne tient que parce qu'il y a cet engagement de bénévole. Donc j'ai dit une équipe rapprochée de 10, là sur le terrain pendant la semaine au moins 50, plus les hébergeurs, donc une cinquantaine de personnes, d'habitants qui hébergent les photographes, donc pas de budget d'accueil ni d'hébergement, ce qui fait qu'on a un budget qui tourne autour de 45 000 euros.
Alors, qui vous aide alors ?
Nous aide la DLVA, le département, le conseil régional, la DRAC, mais la partie subvention, disons que ça fait un tiers du budget. On a un tiers un peu de vente, on a un gros partenariat privé, notamment le Crédit Agricole et Pierreval, un gros partenariat, plus plein de sponsors plus locaux. Et moi je calcule que si on valorisait le bénévolat et les prestations gratuites comme l'hébergement, on doublerait le budget en fait. Oui.
Donc, la mairie de Pierrevert vous aide également ?
Oui, la mairie de Pierrevert est très investie, alors pas financièrement puisque c'est du gros sort de la DLVA, mais en matériel, en prestations, en prêt de salles, en mise à disposition de personnel, facilitateur, tout à fait sans problème.
Monsieur Mille, un très bel événement comme d'habitude, dans votre ville.
Ah ouais, on est ravis. C'est la 15e édition d'une photographique et je vois que chaque année, de plus en plus, ça prend de l'ampleur grâce à Stefano Cosman, toute son équipe, toute l'équipe de bénévoles. Et vous savez que la commune et la DLVA, on est à fond derrière. On a trois événements majeurs qui sont le Rose Day, les 24 heures VTT et bien sûr les nuits photographiques avec toujours des parrains et des présidents de jury qui sont un peu des sommités dans leur domaine. Quoi. Ça régale.
Est-ce que dès le début, vous aviez pensé que ça prendrait une telle ampleur ?
Non, honnêtement, non. Surtout que moi, je ne prends jamais de photos. Je ne suis pas photographe. Je connaissais Cosman parce que c'est un Pierre Verdun. Et après, on a eu l'idée de le faire. Là, et c'est magnifique. Quoi. Et en plus, maintenant, depuis 3 ans, il s'est monté le festival off. Ça fait que ça prend encore bien plus d'ampleur. Et vous voyez ce magnifique parc Turquin qui est plein à craquer. Quoi. On va se passer 4 jours magnifiques.
Alors André Mille, nous sommes en été, fin juillet. La fréquentation estivale, est-ce qu'elle est comme dans toute la Provence, un peu plus faible que d'habitude ?
Honnêtement, je ne vois pas la différence. On a fait des manifestations, il y a du monde, des locaux et des touristes. Fait Pierrevert, c'est pas un lieu, on n'a pas de lac, on n'a pas de pédalo, tout ça. On ne s'en rend pas compte, mais d'après les commerçants, nous ou les restaurateurs de Pierrevert, on ne voit pas de différence. Honnêtement, non. Je sais que dans le Verdon, il y a moins de monde, que sur la côte, il y a moins de monde. J'ai eu un ami en Corse qui m'a dit, il manque 30% de gens. Nous, ici, on fait. Mais nous, on n'est pas un lieu de résidence.
Vous êtes quand même un lieu de villégiature, non ? Les gens viennent louer chez vous.
Les gens ils viennent louer parce que Pierrevert, c'est le plus beau village de France. Et puis, ils viennent louer parce que vous savez qu'il n'y a que 2 sortes de personnes. Il y a ceux qui habitent à Pierrevert et ceux qui voudraient y habiter.
Et enfin, monsieur le maire, ce soir, en revanche, on a fait le plein une nouvelle fois.
Ouais, ce soir, c'est magnifique. Là. Et maintenant, la mairie va offrir le buffet à tous les participants à ces nuits photographiques qui vont être une fois encore une réussite totale.
Sandra Font, un événement important pour la DLVA.
Oui, c'est le festival qu'on attend chaque été et quel bonheur d'être ici à nouveau aujourd'hui.
Et vous participez à travers la DLVA évidemment au financement important de cette édition, les autres.
Exactement, on participe au financement, on participe aussi un peu à la technique parce que nos agents sont là pour donner un coup de main. Et puis surtout la belle exposition que je vous invite à aller voir à Carzou, où là on collabore avec les Nuits Photos pour cette très belle exposition de Monsieur Cosman cette année.
Une exposition magnifique dont on peut voir les affiches.
Oui, superbe, sur New York, extraordinaire.
Une édition, comme d'habitude, qui a beaucoup de succès.
Oui, une très belle édition. Et puis, ce qui me touche particulièrement avec ce festival, c'est l'engagement des bénévoles. Parce que ce festival repose sur les gens, sur les habitants, sur tous ces personnes passionnées de photographie qui vont accueillir les photographes chez eux. Et quel bel état d'esprit.
Oui, parce qu'on peut rappeler que 50 personnes environ travaillent pour cette édition, plus les hébergeurs qui sont à peu près autant.
Exactement, voilà, et puis c'est assez unique, je trouve, et il faut absolument que ça continue comme ça et qu'on continue à avoir des personnes passionnées pour aider à organiser ce beau festival.
Natalia Sapronova, vous êtes photographe, mais vous êtes également en fait reporter, vous pratiquez le témoignage.
Oui, je suis photographe documentaire.
Un travail autour de, on pourrait dire ça, la vie fragile de peuples autochtones.
Oui, des cultures fragiles, des traditions ancestrales, voilà, les traditions, les modes de vie des éleveurs de rennes ou des autochtones, en Russie ou maintenant au Canada.
Alors en Russie, c'est ce qu'on appelle la péninsule de Kola, qui est rattachée presque à la Finlande. Et ce peuple sami auprès duquel vous avez été, est aussi en Suède, en Norvège, en Finlande. Et quelle est la particularité de leur situation en Russie ?
La particularité de ce peuple, mais je pense que la problématique elle est partagée avec... Oui, c'était la sédentarisation, c'était l'abandon du mode de vie nomade, l'élevage de rennes. Ils ont dû... travailler pour des kolkhozes, donc s'occuper des vaches. Ils ne pouvaient plus parler la langue, ni porter le costume pendant l'époque soviétique, je parle de cette époque. Et aujourd'hui, il y a eu une perte de savoir, savoir-faire, de la langue.
Un vieillissement aussi de la population.
Il y a la population, oui, qui vit, les jeunes qui apprennent pas la langue, ou c'est pas très bien enseigné. Donc il y a de moins en moins de choses authentiques aussi.
Est-ce que depuis la fin de l'ère soviétique, ça s'est un peu amélioré ou ça n'a pas changé ? Les gouvernements ont changé, mais pas leur situation ?
Il y a eu des améliorations. Il y a eu, suite à la chute de l'époque soviétique, les Samis, justement, de Norvège, voilà, des pays voisins, ils ont pu se rencontrer. Et d'ailleurs, il me semble que c'était pas loin de la frontière avec la Finlande. Et ils ont aussi un drapeau en commun. Aujourd'hui, on peut dire que les Samis sont quand même plus libres que pendant l'époque soviétique. Ils peuvent avoir la fête Sami, ils peuvent monter le drapeau, ils peuvent partager leurs problématiques. Mais c'est vrai que ça reste difficile puisque l'État prend quand même dessus.
Vous avez été auprès de plusieurs peuples autochtones, on pourra en parler après, la Yakoutie, aussi également au Canada. Mais pour les peuples samis, comment avez-vous commencé ? Vous êtes rendu sur place, d'abord pourquoi ?
Tout d'abord, je voulais partager les témoignages que j'entendais quand j'étais avec les samis. En fait, j'ai commencé à y aller très jeune, quand je faisais encore mes études de professeur de français. C'était 2005-2006. Et oui, mon grand rêve, c'était faire un reportage documentaire. Au début, j'y allais pour faire des photos des fêtes plutôt folkloriques. Voilà, la fête de l'ours, la fête du printemps. Je voulais vraiment raconter une histoire. L'histoire qu'eux, ils me partageaient. Et je voulais l'avoir en photo et aussi faire des portraits des gens, rencontrer cette population et...
Mais ce sont d'ailleurs de très beaux portraits. On pourra remarquer aussi qu'on sent un peuple isolé malgré tout, non ?
Ils se sentent beaucoup isolés, même si la péninsule du Kola, par rapport à l'Europe, par rapport à la Russie, c'est pas vraiment isolé. J'ai vu des endroits beaucoup plus loin où les gens, géographiquement, ils sont vraiment coupés de la civilisation. Mais là-bas, ils se sentent coupés par le gouvernement qui les oublie parfois, notamment parfois pour même l'anniversaire de la ville de Mourmansk. Le fait que pendant l'époque soviétique, ils ne pouvaient pas être eux-mêmes, tout court, en fait.
Parfois, il y a des aberrations. Un village sami reconstitué pour les touristes et qui ne correspondait pas du tout aux critères de leur vie à eux.
Oui, malheureusement, il y a le tourisme de masse qui se fait sur leur culture, sans leur avis, justement. Ou parfois, il y a des costumes samis qui se font dans la région pour des fêtes sans demander l'avis, justement, des vrais samis. Donc, ce sont des costumes très simplifiés, à la juste nordique. Donc, ça rend... très très triste ces gens-là parce qu'ils sont encore là. Justement, il y a quand même des artisanes qui savent encore faire la broderie, faire les ceintures, faire les chaussures, faire des vraies choses et c'est en train de disparaître. Donc si on peut leur demander, donc ça serait mieux.
Est-ce qu'ils continuent à élever des rennes malgré tout ?
Il y a l'élevage de rennes, mais ce n'est pas des familles qui campent dans la toundra. Ce n'est pas l'élevage familial. Ça veut dire qu'il y a un troupeau commun, il y a beaucoup de rennes. Ils ont gardé le système d'élevage de kolkhoz. Ça veut dire qu'il y a les rennes de l'État et des rennes privées. Et il y a des hommes qui vont les garder dans la toundra une semaine avec les rennes, une semaine à la maison. Ils s'y rendent vraiment pour un boulot, mais il n'y a plus de nomadisme.
Combien de temps à chaque fois avez-vous passé sur place, hormis votre enfance ?
Oui, pour mon reportage, je suis allée soit autour des fêtes et je restais avant ou après. Donc c'était au mois de mars parce qu'il y a la fête de l'éleveur de rennes voilà, au printemps. Après, j'ai passé tout l'été aussi avec eux parce qu'il y a la fête d'été autour du solstice. Après, je voulais voir comment ils fêtent le nouvel an ou... En automne, il y a aussi la fête de l'ours. Je voulais voir ce qui se garde encore en termes de connaissances aussi ancestrales. Ou est-ce que ça a été transformé complètement en fête folklorique ? Est-ce qu'il y a des vrais chamans ? est-ce qu'il y a des vraies choses ? Ou comment vivent les gens tout simplement maintenant d'une façon moderne ? Qu'est-ce qui les anime dans la vie ? Comment ils font ?
Quelle est votre opinion ? Est-ce qu'ils ont pu garder une grande part de leur vie ancestrale ou pas du tout ?
Malheureusement, en fait, à partir du moment où on est coupé déjà de la nature, pour eux, en fait, ce sont eux-mêmes, ils disaient, voilà, ce sont des enfants de la nature. À partir du moment où ils ont été placés dans des immeubles, déjà ici, il y a un énorme fossé entre la pratique ancestrale et ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plutôt des personnes âgées qui ont encore des connaissances, qui essayent d'enseigner. C'était le cas d'une grand-mère qui a 85 ans aujourd'hui, qui enseigne toujours la langue sami, gratuitement, sur tout son temps libre, comme une artisane qu'on voit dans le reportage, qui transmet la couture, qui a construit un village ethnographique pour faire face au tourisme de masse, mais elle n'a pas de subvention. Voilà, c'est des gens très passionnés, mais pas toujours facile de faire durer l'activité parce que ça demande beaucoup d'énergie et des investissements personnels. Ou des activistes qui luttent pour les droits de l'homme aussi. Il y a évidemment une grande question de garder les droits de chasse, de pêche, parce que les quotas augmentent tous les ans et ils se plaignent qu'ils n'ont plus le droit d'aller pêcher librement, alors que c'est leur savoir-faire ancestral. Justement, si les gens savent faire que ça, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre s'ils ne peuvent pas le faire ? Voilà, il y a des questions comme ça, existentielles, évidemment, que les gens se posent.
Plus, vous disiez tout à l'heure, lors de cette conférence, que certaines routes avaient été construites qui amènent alors du coup le braconnage d'autres chasseurs sur leur propre terre.
Oui, c'est plus en Yakoutie.
Ah, ça, c'est en Yakoutie, pardon.
Oui. Oui, ça c'est avec l'extraction d'or ou de diamants, oui. Donc les industriels construisent des routes et les gens qui vivaient dans la taïga, qui maintenant, donc c'est des endroits très difficiles d'accès, qui avaient de la chasse équitable et qui aujourd'hui peuvent être surpris par des braconniers qui arrivent, qui ne respectent pas les lieux, qui polluent, qui ramènent des chiens, parfois qui les laissent sur place, ça fait des chiens errants, qui attaquent après aussi des rennes et...
Parce qu'on parle de la Yakoutie, alors là vous y étiez rendu beaucoup plus à l'est, hein, c'est l'Asie, pratiquement la République de Saka, je crois, on appelle la Yakoutie. Et là aussi vous avez rencontré des éleveurs de rennes alors.
Exactement, là-bas j'ai rencontré des Evenks.
Des gens qui ont à voir avec les Samis.
C'est une population de Tungouze, ils n'ont pas les mêmes origines, c'est pas la même langue. L'élevage de rennes, en termes de quantité de rennes dans les troupeaux, c'est pas la même et... J'ai remarqué que dans la toundra, ils utilisent beaucoup plus des attelages. Dans la taïga, ils montent plutôt sur le dos de rennes pour se déplacer parce qu'il y a des arbres. Donc il y a certaines différences.
Alors ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Pour vous, ça n'a pas dû être facile à organiser tous ces voyages financièrement et puis même au niveau du climat ?
Oui, il faut se préparer pour le climat rude, que ce soit froid, humide ou froid sec. L'équipement, le matériel photo, préparation humaine, psychologique. Et oui, il faut avoir une petite sécurité, bien sûr, financière. Donc j'ai eu la chance d'avoir la bourse Canon l'année dernière à Visa pour l'image pour continuer mon sujet sur les Evenks que je vais exposer cette année au festival.
Ça, c'était grâce au travail sur les Samis, hein, ce prix.
Et exactement, c'est ça. C'est vrai que voilà, au début, j'ai investi par moi-même dans ce que je voulais faire, les sujets qui me tenaient à cœur et je ne calculais pas vraiment, je le faisais. Et même le travail sur les Evenks, j'ai commencé avec mes propres moyens et heureusement j'ai eu la bourse pour continuer et je suis très reconnaissante pour cela, parce que j'ai pu mener l'histoire jusqu'au bout et montrer aussi ces gens, cette population, les problématiques. J'espère sensibiliser aussi à la protection de l'environnement et ce que ça amène après.
Tout est lié, en fait.
Tout est lié. Je pense que voilà, c'est plus un secret, c'est plus on coupe les arbres, ça amène du vent, ça change les températures. On voit aujourd'hui les catastrophes, ce que ça fait avec le réchauffement ou des dérèglements. Donc on a parfois des surprises climatiques, des événements qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, l'activité humaine, je l'ai vu dans la taïga, qui pollue l'eau, après qui pollue évidemment la végétation.
Vous avez été très récemment également au Canada,
oui.
Voir les Inuits cette fois-ci.
Oui, maintenant je suis partie au Canada, toujours mon travail sur la fonte du permafrost, parce que c'est pas qu'en Sibérie, c'est pas qu'en Yakoutie. Et cette fois-ci, je veux montrer comment les scientifiques aussi font appel aux connaissances locales, aux connaissances des autochtones, pour faire face à l'érosion de la côte, pour étudier le permafrost, trouver des solutions ensemble.
Ça, c'est un reportage en cours. Oui. Vous allez retourner là, bientôt ?
J'y retourne mardi. J'ai fait 3 semaines en juin et je retourne...
Alors on va tout de même dire que vous êtes citoyenne française et russe, hein, c'est ça ?
C'est ça, j'ai la double nationalité. J'ai étudié en Russie d'abord et après j'ai étudié en France.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'étudier le français ?
J'ai commencé le français au collège en Russie. C'était mon choix. En fait, il fallait au collège choisir une deuxième langue étrangère. C'était soit l'allemand, soit le français. Et j'ai eu un coup de foudre, évidemment, pour le français, de part de la passion qu'on a en Russie pour la culture française, la littérature, la chanson. Et après, quand j'ai commencé à faire des photos en Russie, j'ai travaillé pour un journal quotidien. Et ça m'a donné envie de faire ce métier plutôt en Europe qu'en Russie.
Et vous avez travaillé avec des grands photographes et vous donnez également des cours de photo.
Oui, j'ai assisté de grands photographes portraitistes. Avec eux, j'ai beaucoup appris la lumière, lire la lumière, comme ils me disaient. C'est Pascal Ito et Peter Allan. Et après, moi-même, comme c'est que je suis professeur de français à la base en Russie, j'adore, c'est vrai, la transmission. Et, c'est ce qu'on fait aussi avec le reportage, la rencontre humaine. Et j'adore donner des cours, donc je donne des cours chez Graines de Photographe, Nicolas à Paris. C'est du grand public, tout le monde peut venir avec tout type de questions. Il n'y a pas de mal, on essaie de voir sur place comment on maîtrise le boîtier, comment on fait les réglages, comment on peut jouer avec justement, que ce soit photo de nuit, ou portrait, ou composition, ou street, comment on aborde les gens finalement. Tout ça, ça fait un mix.
Enfin, Natalia, si l'on souhaite voir votre travail, vous avez un site sur internet.
On peut aller sur mon Instagram et depuis la page, on peut aller sur mon portfolio en ligne. Et on peut voir mes séries que je mène en ce moment. C'est Natalia Sapronova. Non, j'ai pas en tête, mais c'est Portfolio.
Peter Knapp, vous êtes... on pourrait le dire, un parrain éternel de ces éditions.
Oui, je suis là depuis le départ. Oui. Et j'ai plusieurs fois suggéré des personnes qui seraient intéressantes à entendre. Et je sais que Sarah Moon fait un travail qui plaît beaucoup aux femmes. Et en même temps, je veux dire que c'est d'un niveau culturel très élevé dans l'image. Alors, je crois que c'est un bon exemple de l'amener à Pierre Vert, évidemment.
Et pourquoi pensez-vous qu'elle plaît tant aux femmes ?
Parce qu'elle a un regard extrêmement gentil sur les femmes. C'est-à-dire que, je ne sais pas, beaucoup de gens vont se rappeler de cette publicité qui est passée à la télévision sur l'eau. C'était un parfum, hein, et c'est une fille qui marche sur un trottoir. Et à un moment donné... elle oublie qu'elle est filmée, elle regarde le publicum et elle dit « c'est moi, Lou ». Non ? Je veux dire que, et ce moment-là, quand je parle avec quelqu'un à propos de Sarah Moon, il est souvent évoqué. C'est-à-dire que qu'une fille qui est uniquement là pour l'image, que subitement elle parle gentiment aux téléspectateurs qui la regardent, c'était un très joli moment.
Et il y a très souvent une grande part de mystère aussi dans ces photographies.
Je pense que c'est justement en abandonnant dans ces images les détails, elle arrive à créer une atmosphère qui est autre, non ? Et qui rend l'image un peu narratif, non ? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement représentatif, mais elle essaie de nous raconter quelque chose. Et elle nous entraîne un peu dans... d'abandonner la réalité pour flotter avec elle un peu dans un petit brouillard.
Plus personnellement, Peter, quel est le travail que vous aimez faire en ce moment ? Quels sont vos objectifs ou vos envies ?
Maintenant, je veux dire que comme j'habite de nouveau plus en Suisse qu'à Paris, je veux dire, je suis évidemment très rentré dans la nature. Et où j'habite, c'est 6 mois d'hiver et 6 mois d'été. Et ce passage, il m'arrive à peu près aussi ce qui arrive à Saramonde. Le paysage change tellement quand l'hiver arrive, ça supprime toutes les couleurs des toits. C'est-à-dire que ça supprime toutes les différents verts, ça couvre les arbres et le paysage change énormément. Et donc, je suis rentré dans ce mystère de blanc et de neige qui fait qu'actuellement, je travaille sur un thème qui est « la neige est noire ». Parce que dès qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de neige. La nuit est la nuit. Mais je suis allé plus loin, évidemment. J'ai photographié et filmé des paysages et des rivières le jour, en hiver. Et là, j'utilise le négatif. C'est-à-dire que du coup, une forêt d'hiver inversée, ça devient dans le négatif comme une voiture avec les phares qui traversent une forêt. C'est-à-dire que ça change presque le sens. Hein.
Saramonde, votre venue suscite une certaine effervescence.
C'est le temps qui fait la célébrité. On me connaît maintenant.
Parlons de temps, justement. Lorsque vous avez commencé la photographie, saviez-vous que vous auriez une telle carrière ? Vous aviez commencé par passion, par hasard ?
J'ai commencé par hasard en photographiant les mannequins, mes collègues.
Et Peter Knapp a dit de vous que vous embellissiez les femmes parce que vous avez un regard plus que gentil aussi également sur elles.
Je les trouve belles. C'est aussi simple que ça. Oui, je les trouve belles.
Parce que vous avez un regard absolument particulier sur la mode. À la fois presque de l'architecture, presque il y a une ambiance assez mystérieuse, les lumières.
Non, mais tout ça, on le dit, mais pour moi, c'est normal.
C'est une évidence.
Oui, mais c'est vrai qu'on le dit. Que je sublime, que je fais ceci, que je fais cela. Mais elle est bien la photo de nous deux.
Lors du passage au numérique, est-ce que ça vous a apporté une grande liberté ou regrettez-vous parfois les contraintes liées à l'argentique ou pas ?
Non, ça m'a intéressé. Je veux dire, j'ai appris un minimum de Photoshop parce que j'aime pas que ça se sente trop. J'aime pas trop la machine. J'aime pas les machines. Voilà. Mais en fait, je pense que ça m'a énormément aidé avec le numérique. De voir que je pouvais me récupérer quelque chose, que c'était pas nivelé. Je veux dire, même si on fait des photos avec son appareil photo, moi j'ai du mal parce que j'ai besoin d'être dans le huton. Mais je pourrais si je voulais. Mais non, j'en fais pas tellement avec ça. En plus, dehors, on voit rien. Et dedans, j'aime mieux mon appareil.
Pour ce qui concerne l'argentique, vous faisiez vos propres tirages ou vous faisiez
non,
pas
non,
avec
non,
quelqu'un
non, j'ai toujours travaillé. Enfin, au début, j'ai appris à secouer, à regarder le temps. Mais j'étais pas une bonne tireuse. Il faut faire ça beaucoup, beaucoup. Et j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Toussaint, qui travaillait chez son oncle. En 82, je crois, je l'ai rencontré. 80, oui, non, après.
Et votre travail actuel, en ce moment ?
Je travaille un peu sur des bribes, des photos, j'en fais des nouvelles. Je suis intéressée par le minimum. Voilà, comme tout le monde. Et voilà, je fais toujours la même chose, je crois. J'essaye de... Enfin, j'essaye pas de trouver autre chose, mais ça évolue. Et puis je fais des films.
En parlant de vous, on parle souvent de photographe de mode, mais vous êtes une artiste multifacette, on peut dire ça comme ça ?
Multifacette, non. Je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas broder, je sais pas... Il y a plein de... Je ne sais pas faire la cuisine. Et tout ça, c'est des talents. Hein, moi, je fais, je vous dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai un sillon et ça m'intéresse de voir si ça... Oui, vous savez, c'est des moments, mais évidemment que ça m'intéresse. Évidemment que c'est ça qui... Ça me tient debout, disons-nous. La quête.
La vie, donc.
Oui, la vie.